France Inter. Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end.
Parce que le rire est à prendre au sérieux, ou peut-être pas, on va en parler. Et surtout parce que ce rire interroge les mutations de notre société. Et bien voici un livre, un épais livre qui fera référence. L'Empire du virus depuis le 19e siècle, paru aux éditions du CNRS. C'est un peu l'histoire moderne du rire, ou l'histoire du rire moderne. 1000 pages rédigées par une trentaine de contributeurs, des spécialistes. Le livre est co-dirigé par nos deux invités, deux professeurs de littérature française en université, Alain Vaillant et Mathieu Letourneux. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors certes, il n'y a pas un, mais des rires. C'est-à-dire, qui veut commencer pour tenter une définition du rire, Alain Vaillant peut-être?
Vaste question, mais j'essaierai de répondre brièvement en deux points. Le rire est une réalité anthropologique absolument fondamentale qui permet à l'esprit de se libérer face à un danger ou une angoisse qui est brusquement écartée. C'est un sentiment de soulagement, donc d'explosion de rire.
C'est pour ça que les animaux rient, certains animaux rient aussi.
Les animaux rient, les grands singes, dans les interactions effectivement ludiques, il n'y a pas de véritable agression, il n'y a pas de véritable danger, et le rire traduit ce sentiment d'apesanteur. Donc d'une part, le rire écarte le danger, et d'autre part, crée un sentiment de connivence à l'intérieur, alors des groupes sociaux, les animaux, les grands singes ou les humains. Donc il y a cette double phénomène, écarter le risque et d'autre part se rapprocher d'autrui.
Et le rire libératoire, exemple depuis le début de l'épidémie avec les partages de vidéos qui deviennent virales via nos smartphones. Quel est le sens de ce partage humoristique qui fait rire en principe?
Eh bien, c'est l'application exacte de ce que je viens de dire. Il y a une angoisse évidemment face à l'épidémie, et le rire permet de s'alléger l'esprit, de se soulager, et d'autre part de se rapprocher entre humains, même si le confinement et les conditions de la vie sociale rendent difficiles ces rapprochements.
Parce que vous consacrez effectivement un chapitre à la sociabilité du rire, rire devant les autres, rire avec les autres, c'est reconnaître quoi? Une interaction de groupe, cette sociabilité, c'est quoi? C'est le début de la tribu? C'est ça le rire?
Oui, c'est un besoin social, c'est un besoin de connivence. Alors c'est une connivence sociale, c'est aussi une connivence intime. Il y a beaucoup de rires dans l'espace privé. Il faut toujours se rappeler que la majorité des rires, finalement, sont des rires privés. Mais c'est lié à notre condition d'animal social. Et donc il y a une dimension affective extrêmement importante dans le rire.
C'est la cohésion, certes, mais ça peut être aussi de l'agression, le rire.
Il faut une cible, effectivement. On agresse quelqu'un, mais cela dit, ça n'est pas méchant, donc il n'y a pas de véritable danger.
Ça peut être méchant, quelquefois, en politique, par exemple.
Oui, mais on ne se tue pas, justement. Bon, il y a tout un débat, c'est ce que le rire est méchant. Et certains spécialistes, dont je suis, disent, oui, l'homme est peut-être méchant, mais il serait beaucoup plus méchant s'il ne riait pas. Donc c'est une atténuation de l'agressivité naturelle.
Rire de tout, mais pas avec tout le monde, disait Pierre Desproges.
Oui, en effet, parce que le rire crée une connivence, donc on ne veut pas forcément se sentir en connivence avec quelqu'un qui n'est pas un ami.
Vous dites le rire, certains disent que le rire est méchant, Baudelaire le disait, en voyant une personne trébucher et tomber dans la rue, rire du malheur des autres, c'est satanique, disait-il. Il y a une vision forcément, je n'ose pas dire satanique, mais enfin de se moquer toujours un peu avec le rire.
Ça fait partie du plaisir de rire, c'est aussi ce que disait Freud, hein, le rire tendancieux, parce que justement on joue avec son agressivité naturelle dans ce cas-là. Soit on détourne l'agressivité que quelqu'un d'autre peut exercer sur soi, soit on détourne sa propre agressivité en se contentant d'en rire.
Mathieu Letourneux, les attentats de Charlie l'ont rappelé, non seulement la tradition française de l'ironie et de la caricature est bien française, et notamment française, ils ont surtout rappelé que le rire peut mettre en danger, c'est-à-dire?
Oui, c'est-à-dire que dans la mesure où le rire est lié à des questions de conflit, et dans la mesure où il soude une communauté, très souvent le rire joue un rôle dans les conflits dans la société, de communauté contre communauté. Et depuis toujours, le rire politique, très politique du 19e siècle, ou celui de mai 68, était un rire de conflit, et de la même façon, pour Charlie Hebdo, il y a eu un phénomène de conflictualisation. Mais il y a une particularité dans le cas de Charlie Hebdo, c'est que les caricatures ont cessé d'être des objets de rire pour devenir des objets strictement politiques.
Et justement, Charlie Hebdo devenu cause nationale, presque consensuelle. Est-ce qu'on peut être à la fois, dans le rire, consensuel et transgressif ?
On peut être à la fois dans le rire consensuel et transgressif, peut-être, mais dans la mesure où, dans ce cas-là, dans la mesure où la transgression est consensuelle, c'est-à-dire dans la fausse transgression, qui a été une des caractéristiques, par exemple, du rire des années 90, c'est ce qu'on appelait le rire l'insolence ou l'impertinence. Et donc, le vrai rire de transgression ne peut pas être consensuel, par définition.
Mais là, c'est une bombe, à ce moment-là, dans ce cas-là. C'est une bombe,
oui.
au sens propre du... Enfin...
Oui,
terme,
la vraie transgression, vous voulez dire? Oui, le rire transgressif, dans ce cas-là, a une véritable fonction de conflictualité, mais aussi de constitution de la communauté des rieurs. Les rieurs se constituent, et c'est pour ça que le rire a une force politique, c'est que dès lors que on fait partie des rieurs en s'opposant à ceux qui ne rient pas, on fabrique des collectivités politiques.
Donc c'est un sujet anthropologique et historique à la fois.
Oui, et culturel, et social. Oui, c'est vraiment un élément
livre.
Capital.
Le rire, historiquement, est-ce qu'il a toujours jonglé entre la censure d'un côté et la transgression ? Ça a toujours fonctionné comme ça ?
Alors c'est une question importante, et pour rebondir sur ce qui a été dit, le fait est qu'en France en particulier, au XIXe siècle, parce qu'il y avait une situation de censure, le rire a été un moyen quasiment légitime de contestation politique, de discours politique. Et il y a eu une véritable héroïsation de la satire, de la caricature, d'ailleurs dès le XIXe siècle, à cause de cette situation. Il est évident qu'en situation de censure, on rit parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Dès lors qu'on a le droit de s'exprimer, qu'on est en démocratie, le rire peut-être s'efface derrière d'autres modes d'expression, ce qui explique d'ailleurs que le rire aux États-Unis est considéré comme une réalité beaucoup plus connivente, beaucoup plus pacifique qu'en France, parce qu'il n'y a pas cette tradition de rire contre la censure. Mmh. Et on voit bien à la fin du XIXe siècle, avec la Troisième République, que le rire change de fonction, puisqu'il n'y a plus de censure, et c'est à ce moment-là qu'apparaît l'humour.
Et ça devient un marché aussi.
Oui. Ça devient un marché, exactement. On rit de soi, et non pas du pouvoir, et d'autre part, ça devient une réalité économique fondamentale.
Mais précisez-nous ça, peut-être. Pourquoi l'histoire du rire connaît une rupture décisive après la Révolution, effectivement, à la faveur des grandes mues libérales et bourgeoises, de l'Occident en tout cas.
Alors, à partir de la Révolution, c'est que, sous l'Ancien Régime, le rire est un rire de caste. Il y avait le rire de l'aristocratie, dans les salons donc aristocratiques, était l'ironie fine, et d'autre part, le rire populaire. Avec un point de contact, c'était dans les cabarets, parce que là, on pouvait rencontrer à la fois le peuple et les aristocrates, surtout les hommes. Avec la Révolution, le rire devient un phénomène démocratique, ouvert à toutes les classes, et au XIXe siècle, où le centre sociologique est d'ailleurs plutôt le rire bourgeois.
Un bien commun à tous, écrivez-vous dans ce livre, avec quelles conséquences ?
Avec la conséquence qu'on disait à l'instant, c'est que le rire, encore une fois, est un instrument dans le débat public et dans le débat politique. Le rire est au centre du politique au XIXe siècle, et aussi donc avec l'émergence d'un marché, parce que ce qui est absolument capital, c'est que, comme on y insiste beaucoup dans le livre, le rire est l'industrie culturelle la plus importante.
Mais est-ce que le rire est universel, certes, mais il y a peut-être une différence. En tout cas, dans l'histoire, il y a une différence, à un moment donné, entre le rire féminin et le rire masculin. Et il y a d'ailleurs un livre qui sort en même temps que le vôtre, qui est celui de Sabine Melchior-Bonnet, qui est historienne, sur le rire des femmes. Et les femmes, longtemps, n'ont pas ri, simplement, d'un point de vue esthétique. Elles ne voulaient pas montrer, parce que les dents étaient abîmées, il n'y avait pas les dentistes comme aujourd'hui, on ne se soignait pas les dents, et elles ne voulaient pas se montrer dans cet état-là.
Mais ça va plus loin. Au XIXe siècle, le rire médiatique est un rire d'homme. Mmh. Dans la presse, on rit entre hommes, c'est-à-dire toute la presse comique qui est extrêmement importante au XIXe siècle, on rit entre hommes, et l'objet du rire, ce sont les femmes. Les petites femmes de Paris, la Lorette, la Grisette, toutes ces femmes dont on rit en permanence, qui sont présentées soit comme des prostituées, soit comme des prudes, soit comme des vieilles filles, sont des objets d'un rire masculin qui va dominer, et je dis au XIXe siècle, qui va dominer très longtemps au cours du XXe siècle, et qui structure encore, malgré tout, les équilibres du rire, puisque aujourd'hui, le rire féminin qui se développe considérablement est un rire contre masculin, si vous voulez, qui s'oppose à un rire masculin qui reste, qu'on le veuille ou non, dominant.
Oui.
Oui, non, j'ajoute que pour les dents, vous savez, les hommes avaient aussi des dents en très mauvais état.
Mais peut-être qu'ils avaient moins honte de les montrer.
Non, l'essentiel, c'est que montrer les dents est un signe d'agressivité. Mm. Et donc, on retrouve ce que je disais au début, c'est que le rire est une manière de gérer l'agressivité, extérieure ou intérieure. Et donc, la femme n'a pas à se présenter en posture d'agression. Elle est effacée, elle sourit face à l'homme qui rit. Et donc, fait de ne pas pouvoir montrer les dents, ce qu'on trouve dans les traités de civilité depuis le XVIIIe siècle, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus inquiétant pour ce qui est du rapport.
Et le masque, sexes. D'ailleurs, ça change quelque chose au rire ? Le port du masque, en ce moment ?
On rit avec les yeux maintenant, plus avec la bouche.
Oui, alors le rire, en principe, c'est les deux, effectivement, c'est le plissement des... Mais c'est vrai que je me suis souvent fait la réflexion, moi je m'arrive souvent dans la rue, comme ça, de sourire, d'esquisser quelque chose, et puis quand je me suis rendu compte que j'étais masqué...
Ça ne se voit pas.
Non, donc je me dis, c'est pas la peine, autant rester sinistre. Et je pense, en effet, que c'est pas les quelques vidéos qui passent sur Internet qui compensent l'absence de vraie communication entre les personnes.
Et puis donc un autre visage du rire et qui occupe une bonne place dans votre livre, c'est ce rire qui est devenu une force de frappe économique et médiatique. On consomme mieux quand on divertit, Mathieu de Le Tourneux.
Oui, on parle beaucoup du rire politique parce que il a des vertus et des qualités qui nous conduisent à en parler. Mais en réalité, là où le rire se déploie le plus, c'est dans la consommation, dans les médias de masse, dans le divertissement.
Et on en sait quelque chose ici à France Inter.
Oui, et partout. C'est absolument fondamental dans la culture médiatique. Pourquoi c'est fondamental ? Parce que les médias sont à distance de leur public et qu'ils ont besoin de construire de la connivence. Et donc, faire rire le public, c'est fabriquer de la connivence malgré la distance. Quand on est à la radio, on ne voit pas son public, mais si on rit et si le public rit aussi, il y a un lien.
Mais il y a même des faux rires, d'ailleurs.
Bien sûr, à la télévision, les rires enregistrés à la télévision française, etc. Mais le deuxième point, c'est cette connivence dont vous parlez dans la consommation. La publicité a aussi besoin de faire rire pour les mêmes raisons. On se sent proche du produit, on aime le produit parce que le rire... Comme le disait Alain au début de cette rencontre, le rire crée de la connivence, y compris avec des produits, y compris avec des chaînes de télévision ou de radio.
Et ça apparaît quand ? Alors évidemment, je ne vous parle pas des chaînes de radio, mais cette connivence entre le marché, j'ose pas dire les médias, si on remonte au 19e siècle, quoique, ça commence quand exactement ?
Ça commence tout à fait au 19e siècle avec les médias, parce que la presse au 19e siècle, c'est un média extrêmement important qui constitue la société. Et la presse, on ne le sait pas toujours, est avant tout une presse du rire, dans laquelle le rire tient une place considérable au 19e siècle.
C'est une presse d'émotion en tout cas.
Oui.
Dont le rire. Mais oui. On fait aussi des faits divers qui sont très sanglants et qui ne racontent pas forcément la réalité, mais enfin c'est un autre débat.
Oui, mais la place du rire est vraiment une place capitale qu'on sous-estime complètement au 19e siècle et qui constitue une culture du rire. Et un autre intérêt du rire, c'est que, et on le dit aujourd'hui avec les mèmes sur Internet, le rire fait circuler l'information dans l'espace. Parce que quand on rit, on raconte ce qui nous a fait rire à d'autres, et donc ça contribue beaucoup à faire circuler les discours et les informations.
Mais est-ce que le fait que ce soit un sujet tendance, parce que finalement ça l'est aujourd'hui, est-ce que ça n'atténue pas un peu la puissance du rire ?
Je pense pas. Je pense qu'une des caractéristiques du rire contemporain, par rapport justement au rire dont on parlait dans les années 80-70, qui était un rire très consensuel, c'est qu'avec les réseaux sociaux et avec Internet, c'est devenu à la fois un rire consensuel et un rire de dissensus, d'opposition. On voit bien dans les réseaux sociaux qu'il y a de nouveau des petites communautés de rieurs qui font circuler des mèmes qui sont extrêmement, ou des plaisanteries qui sont extrêmement violentes pour d'autres communautés. Et une des caractéristiques, à mon avis, du rire aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est qu'il se repolitise, il se reconflictualise, et en même temps on a encore un grand rire consensuel. Et donc, non, je ne dirais pas ça, je dirais au contraire qu'aujourd'hui on a de nouveau une politisation du rire et un rire qui se complexifie par certains aspects.
Alors pardon, j'ai deux questions en une. D'abord, est-ce qu'il y a un esprit français du rire ? Et ma deuxième question, est-ce que cet esprit français du rire, s'il existe, est-ce qu'il a pu résister à la mondialisation du rire ? D'abord sur l'esprit français du rire, est-ce que ça existe ?
Oui, il existe un esprit français comme il existe un esprit anglais, américain. Je pense que le rire est une des productions culturelles où les identités nationales ou communautaires se voient de la façon la plus visible. L'esprit français du rire, qui est reconnu comme tel par les étrangers dès le XVIIIe siècle, c'est l'esprit de sarcasme, c'est la méchanceté du rire, et qui est directement lié au fait que le rire, comme je le disais tout à l'heure, en fait depuis le XVIIe siècle, a été utilisé comme une arme contre un pouvoir autoritaire. Et donc c'est le petit enfant qui se moque de l'adulte derrière son dos, et bien le français a toujours fait cela face au pouvoir. Et donc ça donnait naissance à une tradition satirique, que l'on voit effectivement dans le rire politique, que l'on voit dans Charlie Hebdo au XXe siècle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui caractérise le rire français, rire vaniteux aussi, comme disait Stendhal. Donc il y a toute une série de termes qui identifient le rire français par opposition au rire anglais ou au rire anglo-saxon.
Et le deuxième aspect de ma question, c'est est-ce que cet esprit français a pu résister à la mondialisation du rire, de l'industrie du rire mondial ?
Eh bien ça, c'est l'autre aspect, non ? La mondialisation, c'est une réalité. Le soft power américain a envahi le domaine du rire et progressivement on est passé de la satire à l'humour avec le procès du stand-up, etc. Et on peut dire que, je dirais, les procédés les plus génériques du rire d'un point de vue mondial aujourd'hui viennent grosso modo de la culture américaine.
Alain Vaillant, vous avez parlé de Baudelaire tout à l'heure, de Stendhal à l'instant, mais le cœur, enfin je veux dire le rire est au cœur de la littérature et ça vous voulez le montrer parce que c'est quelque chose qu'on ne remarque pas forcément, vous évoquez Hugo, Balzac.
Oui, c'est de là qu'est né mon intérêt pour le rire. Je lisais des œuvres d'auteurs aussi sérieux et fondamentaux que Balzac, Hugo, Baudelaire, Flaubert, etc. Et je voyais des choses très drôles. D'abord, j'étais très étonné de voir que mes collègues ne le voyaient pas ou trouvaient que c'était pas intéressant lorsqu'on le voyait.
Ben vous écrivez que le rire était, il y a encore quelques années, le grand méprisé des études.
Oui. Et d'une certaine manière, le fait de toujours interpréter le rire du point de vue de la signification du rire, de la signification politique, c'est aussi ne pas reconnaître que le rire est d'abord une jouissance, c'est une source d'émotion et de plaisir. On va à un spectacle comique.
Une puissance organique.
Une puissance organique, on prend un vrai plaisir.
Une jouissance primitive, écrivez-vous.
Regardez ce que c'est qu'un public dans une salle de spectacle, des centaines de personnes et qui sont secouées par le rire.
Par des spasmes.
Il y a quelque chose d'animal. Oui, il y a presque quelque chose d'obscène dans le plaisir du rire. Et je me suis demandé pourquoi les écrivains émettant le rire, et c'est ce que je disais aussi au début, le rire éloigne l'agression et donc libère l'imagination, l'émotion. Baudelaire disait que le comique absolu était l'apanage de tous les artistes supérieurs. Et pour lui, le rire était la voie d'accès vers l'art de façon absolue. Et Flaubert disait que ce qui lui faisait le plus rêver comme écrivain, c'était, dit-il, le comique poussé à l'extrême, le comique qui ne fait pas rire. Avec cette idée qu'on a tellement envie de rire qu'on ne rit plus et on accède à autre chose.
Eh bien, que répondez-vous aujourd'hui à ceux qui disent qu'on ne peut plus rire de rien ? Que les tabous ont pris le dessus ?
J'ai du mal à répondre à ce qui est une contre-vérité absolue, ouais. Parce qu'on rit tellement, on rit d'autre chose, mais le rire est anthropologique, dire qu'on ne rit plus...
En réalité, on a toujours l'impression qu'on ne peut plus rire de rien, parce que si dans une société le rire unit la collectivité en excluant des personnes, quand on regarde le passé, on a l'impression qu'on pouvait rire de certaines choses, puisque ça ne gêne plus qu'on rit de ces choses-là. Mais dans toute société, on ne peut pas rire des choses qui gêne la collectivité.
Cela dit, rire, c'est toujours amplifier les stéréotypes. Donc forcément, il y a une cible qui forcément à qui ça ne plaira pas.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que toute période, toute époque a des choses dont elle peut rire et des choses dont elle ne peut pas rire. Et donc quand on regarde le passé, c'est facile, on a l'impression qu'on pouvait rire de tout. Parce que des choses qui gênent aujourd'hui ne gênaient pas.
Les premières à en faire les frais du rire, c'était les femmes et les communautés. Alors on va y mettre les homosexuels, les races, les communautés religieuses. Aujourd'hui, gare désormais aux humoristes qui n'ont pas saisi que le monde avait changé.
Absolument, mais à l'inverse, autrefois on ne pouvait pas rire du drapeau, on pouvait difficilement rire de la patrie, il y a plein de choses dont on ne pouvait pas rire et dont on peut rire.
Alors, pardonnez-moi, mais je reviens à mon chouchou Pierre Desproges. Est-ce qu'aujourd'hui, donc c'était il n'y a pas si longtemps qu'il était sur scène, quand il disait, il arrivait en disant « j'apprends qu'il y a des juifs dans la salle », est-ce qu'aujourd'hui il pourrait encore dire ça ?
Bon, d'abord Blanche Gardin l'a montré puisqu'elle l'a refait. Et ensuite, je pense que l'humoriste fabrique un cadre avec son public de complicité et qu'en réalité, avec ce public, il peut dire absolument ce qu'il veut dans le cadre de cette complicité. Pierre Desproges, quand on relit les textes de Pierre Desproges et qu'on voit immédiatement, on identifie immédiatement le cadre, on trouve pas ça très choquant. En réalité, Pierre Desproges n'était pas très choquant quand il écrit « Les étrangers sont des cons » et qu'il s'en prend à tous les étrangers. En fait, quand on lit, on voit que c'est pas bien méchant parce que c'est un jeu. Ce qui choque, c'est quand, d'un seul coup, il y a du dissensus. Ce qui fait que Dieudonné est très choquant, c'est parce qu'il fabrique des communautés qui produisent du conflit, et donc, ça ne marche pas de la même façon.
Et on pourrait aussi parler du fou rire, du rire fou, de la folie de rire, comme l'a envisagé Baudelaire, bien pour ça. On relira son livre « L'essence du rire » aussi, mais surtout, je renvoie à votre j'ose pas dire la Bible, mais enfin, ce beau pavé, hein, l'Empire du Rire à partir du 19e siècle. C'est une mine d'informations, une mine de réflexion aussi. Merci d'être venu en parler ce matin.
Vous avez ri en travaillant dessus.
On a pleuré de rire tous les jours. Mathieu Letourneux et Alain Vaillant, le livre paraît chez CNRS Éditions. Merci beaucoup.
Merci.
Et bonne journée.